crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Great war.
Salut à
Salut
tous.
Salut.
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Rockets Rouges. Vous nous écoutez au plutôt le 16 février. Voilà, c'est comme ça pour vous rappeler le
la date d'aujourd'hui.
Voilà,
merci Guillaume.
Pour meubler aussi, pour commencer à se chauffer la voix pour se lancer. Aujourd'hui autour de la table, Katia.
Hello.
Amanda.
Salut.
Miss Rocket.
Bonjour.
Moi-même Guillaume. Dérange pas les filles,
ça.
Voilà, ok.
Non, mais c'est bien rattrapé parce que la dernière fois, j'étais la seule fille avec les deux mecs, j'ai pété un plomb.
Pff,
oui, mais par contre, t'as bien envoyé quand même. Ouais. Je sais pas si Guillaume s'en est remis.
On verra plus tard.
On verra plus tard. Ouais.
Et on attend Romain
d'intense.
Qui va peut-être
non,
arriver.
Sans,
si...
Cette blague-là, on l'a fait depuis deux ans. Je crois que les auditeurs sont lassés, eux aussi.
C'est mignon. Ouais. Vous êtes lassés, les auditeurs.
Voilà. Vous s'en foutent, les auditeurs. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On sort de manif. On en parlera tout à l'heure. On a été en manif pour protester contre le délit de solidarité devant la préfecture de Rodez, là, il y a une heure. On enregistre le jeudi d'avant le 16 février. On est combien, le 8, là?
Non,
le
9.
Le 9. On est le 9, là? Alors, on n'est pas le 16,
là. T'as pas reçu assez de textos, toi, pour t'appeler à la manif du 9.
Il
fallait en avoir 6 pour se rappeler bien la date, bien l'heure, le lieu et tout.
Non, c'est une chouette manif. Hein. Il y avait quoi? Une centaine de personnes?
Une
bonne
personne. Il y a une dame, elle a compté, il y avait 180 personnes.
Wow. Il y en a qui compte.
Selon
les
organisateurs?
Non, une dame, juste.
Voilà. Et on a invité les organisatrices qui sont, c'était à l'appel de Momo Show qu'on avait déjà reçu ici. On les a invitées, donc elles rangent un peu tout le matos là, et puis
elle devrait arriver.
Tête, hein. Voilà, par là.
Si elle croise pas Romain entre temps.
Ouais, bon. Aujourd'hui, on va parler de chronique littéraire, on va parler de sabotage, on va parler de quoi tu vas parler, Katia, toi?
À quoi ça sert?
À quoi ça sert? Tout ça, et pourquoi, et comment, et tout le reste. Voilà.
C'est ça, des questions existentielles.
Ouais.
Bienvenue.
Et je crois qu'on va commencer par Tech Chronique. Guillaume, de
oui.
quoi vas-tu nous parler?
On a tiré au sort, hein. C'est pas parce que je suis le seul homme qu'on commence, hein. Je voudrais clarifier les choses. Il n'y a pas de patriarcat ici.
Il a insisté tout à l'heure.
Il a été désigné par les pouf-pouf, les plouf-plouf.
Les plouf-plouf, voilà. Et, ouais, c'est moi qui ai perdu. Donc, moi, je vais vous parler de, je vais vous le dire. La dernière fois, déjà, je vous parlais de post-vérité. Un terme qui traduit un changement d'échelle des phénomènes de désinformation. Je vous faisais part de mes inquiétudes quant au manque de préparation de mon camp politique dans ce domaine. Eh bien, oubliez tout ce que j'ai dit. Finalement, puisque c'est à la mode, pour ne pas paraître ringard, j'ai décidé moi aussi de me lancer dans la théorie du complot. J'en ai fabriqué une moi-même avec mes petites mains et mon imagination limitée. Alors bon, je débute hein, dans le conspirationnisme, c'est perfectible, mais sait-on jamais, c'est peut-être le début d'une carrière. Alors, on va commencer d'abord par mettre une musique angoissante. Pour aider le pigeon, enfin l'auditeur, à se mettre dans l'état d'esprit que l'on souhaite. Ça, c'est la BO de Dracula de Coppola, ça fait peur. Ensuite, il faut une accroche, qu'en termes techniques, nous appelons putaclic. Pas la peine d'expliquer, le nom parle de lui-même. Il ne faut pas hésiter à en faire des caisses. Plus c'est gros, plus le gogo gâteux va globalement gober gaiement. Vous pensiez tout connaître de vos amis politiques? Ce que vous allez entendre va changer votre vie pour toujours. Et là, j'annonce ma théorie du complot. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est noyautée par des militants d'extrême droite. Plein.
Je le savais.
Prends ça dans ta gueule. Une multitude d'éléments troublants sont là pour prouver ce que je dis. Ces agents infiltrés depuis longtemps sont très rusés et manipulent la France insoumise pour favoriser l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Évidemment, s'ils défendaient publiquement des positions anti-immigrés, islamophobes ou racistes, ils seraient aussitôt François Fillon. Ou grillés, on peut dire les deux. Non, ils sont beaucoup plus malins. Ils influencent d'abord la France insoumise sur des positions aux marges du programme, comme la politique internationale. On considère que Poutine est un rempart contre l'impérialisme américain, que Bachar el-Assad doit être un interlocuteur dans la lutte contre Daesh, comme le Front National. Coïncidence? Je ne crois pas. Ces taupes fascistes vont ensuite tenir des discours anti-élite suffisamment ambigus pour que les militants de gauche les reprennent sans en saisir le double sens. Quand le gauchiste parle des élites, il pense aux banquiers, aux ministres, aux énarques, aux éditorialistes vedettes, mais l'électeur frontiste, lui, pense aux profs, aux journalistes, aux militants politiques, aux syndicaux, bref, à tous ceux qui se sont formés intellectuellement et qui s'en réfèrent. Enfin, les conspirateurs vont inviter les militants de gauche, au nom de l'ouverture d'esprit, à se réinformer, là je fais des guillemets avec mes doigts, ça se voit pas à la radio, à se réinformer vers des idiots utiles en mal de reconnaissance, comme Étienne Chouard ou Thierry Messant, qui entretiennent la confusion gauche-droite, comme par hasard. Et lorsque Marine Le Pen sera au deuxième tour de la présidentielle face à un sinistre opportuniste, que croyez-vous que ces agents vont faire? Appeler à voter Le Pen? Non. Là encore, ils seraient aussitôt Jean-François Copé ou François Fillon ou Cramé. Non. Ils vont appeler à s'abstenir. Surtout ne pas s'opposer à leur candidate en faisant croire qu'un socialiste ou un libéral, c'est pareil ou pire. Ils sont très forts. Bien entendu, aux législatives suivantes, ils favoriseront la division du camp progressiste, en poussant le plus de candidatures possibles entre PCF, NPA, France Insoumise, Écolo, au nom de la pureté idéologique bien sûr. Méfiez-vous, ces fachos sont infiltrés parmi nous, ça peut être n'importe qui sauf moi évidemment, ça peut être toi, toi, toi ou toi là-bas. Mais non, je déconne, j'y crois pas, musique de soulagement.
Ah,
vous êtes soulagés.
C'est bien, ouais, j'ai pas respiré, ça fait 2 minutes.
Crispés, là. Je ne pense pas un mot de ce que j'ai dit. Il n'y a pas plus de fachos infiltrés dans la France insoumise que de droits sociaux infiltrés dans le mouvement de Macron. Si je reprends les points évoqués plus haut, je peux m'auto-réfuter. Sur la Syrie et Poutine, Mélenchon est plus clair que les mélenchonistes. Ceux-ci, malheureusement, semblent ne pas écouter en intégralité les explications de leurs leaders et défendent alors avec mauvaise foi des positions tronquées. En effet, et là on coupe la musique de soulagement, ça ne va pas durer longtemps. Et là, on parle beaucoup à gauche, mais on étudie peu ou mal. Beaucoup cite Gramsci, le communiste italien, et sa théorie de l'hégémonie culturelle où le pouvoir se gagne en conquérant les idées et les débats. C'est la bataille culturelle. Seulement, en reprenant le vocabulaire de l'adversaire et en cautionnant cette forme d'ouverture d'esprit qui n'est qu'un courant d'air enrhumant l'intelligence, il favorise l'hégémonie culturelle du camp d'en face. Enfin, pour ce qui est de l'éventualité d'un second tour Marine Le Pen versus candidat libéral, j'ai confiance dans les états-majors politiques qui appelleront à faire barrage. Quand on dit qu'il faut lutter contre l'extrême droite par tous les moyens nécessaires, certains s'imaginent qu'il s'agit d'entrer dans la lutte armée, faire le sacrifice de sa personne, alors qu'en fait, il s'agit de voter pour un candidat qui nous est insupportable, mais qui empêchera le racisme et la violence de prendre le pouvoir en France. Si certains militants ne respectent pas ces consignes par amour propre, par fierté aristocratique militante, ils assumeront leur choix, mais ils ne pourront plus être considérés comme fiables dans les prochaines luttes antifascistes. Alors on va me dire, t'en as pas marre de critiquer ton camp, de toujours critiquer ton camp politique, connard? Non, mais c'est parce que je vous aime. L'année qui s'engage, je l'ai déjà dit, sera phagocytée par les intox et les discours d'extrême droite, et je crains que mon camp s'enlise dans une confusion politique. Pour conclure, je citerai moi aussi du Gramsci. Il faut avoir une parfaite conscience de ses limites, surtout si on veut les élargir.
Merci Guillaume.
Et je vous en prie, avec plaisir.
À quand la page Facebook complotiste?
Ça peut bien marcher. Remarque. Ouais. On pourrait faire des fausses pages. Enfin, ça existe déjà d'ailleurs, les fausses pages complotistes. Je vous invite à aller voir Complot Facile pour aller briller en société. C'est assez drôle, voilà. Ça, tout est complot, tout est sujet de complot. J'ai pas d'exemple en tête là qui vient, mais
il y en avait un qui était sympa que j'avais vu tourner où il y avait une carte du monde et les avions qui étaient partis de Pearl Harbor.
Depuis le Japon jusqu'à Pearl Harbor.
Ouais, ouais. Et, mais sans voler au-dessus de la Terre, juste en contournant la Terre et en disant que les avions de l'époque n'auraient pas pu
sur leur réservoir. Et pas un globe,
oui, voilà. C'était un planisphère. Ouais, ça marche vachement mieux.
C'est mieux quand on le voit en image, mais sur la radio, c'est compliqué.
Radiophoniquement, voilà. C'est pas terrible. Ouais, je m'en rends compte en même temps que je le raconte. Désolé.
Excusez-nous les auditeurs.
Ça nous arrive plein de fois. Ça.
C'est un métier la radio. Hein,
si je le retrouve, je le mettrai sur la page des Roquettes.
Voilà, c'est bien. On vous mettra le lien du site Complot Facile hein, pour briller en société. On va écouter un petit peu de musique. Voilà, c'est déjà un slide. Please, please me.
Let's go smoking, and now you're skanking. One man, one girl, go and do one. Right place, right time, right before right body. Don't let them feel in the line, not to row, I'm sorry. Feeling alive, left zero, I'm sorry.
gonna be fun. And come back in my bed with a smile I can't explain. Oh, please, 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 rude girl, see us getting keen again. Please, 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 rude girl, see us getting keen again. Please, 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 rude girl, see us getting keen again.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent, ils s'enfuient. Du rock et du rouge.
Vous écoutez les roquets rouges sur CFM 107.7, vous n'êtes pas le 16
107.9.
février. Merde,
on est le 16 février.
Non, le 14.
Je me trompe, les chiffres, c'est pas mon truc, hein. Miss Rocket, la géo, c'est pas son truc, et le planisteur non plus. Moi, c'est les chiffres. Et d'ailleurs, on est diffusé le 14 février, pas le 16. Mais peut-être que vous êtes le 16, on merde, absolument.
Oui, parce que si tu nous écoutes en replay, tu es le 16.
Tu écoutes quand tu veux, en fait, finalement. Et maintenant, c'est Katia qui va parler.
Ouf. Oui, moi, je me demandais à quoi ça sert. C'est vrai, on entend ça tout le temps. À quoi ça sert? Mais oui, à quoi ça sert?
À quoi ça sert quoi?
Ben, à quoi ça sert, par exemple, merci Guillaume. Les rassemblements, les manifs, les chroniques. À quoi ça sert? Soyons honnêtes, pour les manifs, il fait froid. Pour les chroniques, personne ne nous écoute. Et puis, de toute façon, le monde, il est tout pourri. Les puissants, ils sont trop puissants. Rien n'y changera rien.
Ça va pas fort, toi.
À chaque fois qu'on se mobilise collectivement, on se fait avoir bien profond à la fin. Alors, à quoi ça sert d'aller se geler les miches en plein vent? À quoi ça sert d'user sa voix en petite ou grande échelle? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, j'avais envie de donner deux petits exemples d'espoir. Donc non, ça va bien. Deux petits exemples de « oui, oui, ça sert de se serrer les coudes, ça sert de se révolter, ça sert de s'exprimer, ça peut servir. » Roumanie, tout d'abord. Si ça, c'est pas un exemple de réussite d'une mobilisation collective spontanée, coléreuse, déterminée, si ça, ça donne pas envie de battre un peu le pavé. Pour rappel, en décembre 2016, le PSD, parti considéré centre-gauche, revient au pouvoir en Roumanie. Alors que le pays a entamé depuis des années une lutte sans merci contre la corruption qui gangrène profondément la société, ses élus, et y compris les élus aux plus hautes fonctions de l'État. À peine élu et contre toute attente, le gouvernement PSD, sans janvier, pond un décret visant à dépénaliser certains faits de corruption. Au passage, il tente de sauver certains barons alliés, visés par les centaines de procédures engagées en 2016, dont notamment le grand patron du parti, visé par l'une de ces procédures. Et v'là-t-y pas que, bam, le peuple n'est pas d'accord. Il descend dans la rue, étonnant, mais beau. Il descend dans la rue, alors que bon, fin janvier en Roumanie, je pense pas que la tenue officielle soit le short. Mais le peuple sort en masse, furieux, de nuit, pour contester ce décret et dire son ras-le-bol des manœuvres politiques opportunistes et de la corruption qui reste encore et qui s'accroche aux branches. Plus d'un demi-million de Roumains dans les rues les samedis et dimanches 4 et 5 février. La population totale étant de 20 millions, c'est comme si en France, on se retrouvait ou on s'était retrouvé à 1,6 million de manifestants, par exemple contre la loi travail. Alors que le 31 mars, on était 400 000. Il nous manquait quand même encore quelques copains. Au moins 300 000 manifestants uniquement à la capitale, à Bucarest. Résultat, après uniquement quelques jours de mobilisation, dès le 6 février, le décret est annulé. Victoire en moins d'une semaine. Mais la mobilisation ne s'arrête pas là, les Roumains ne quittent pas les places et les rues, et pour la sixième nuit consécutive, malgré l'abrogation du texte, ils continuent. Trahis, ils réclament le départ du gouvernement, sans se soucier du fait qu'ils viennent de l'élire, mais simplement trahis et décidant de ne pas continuer à être trahis, arguant qu'ils n'auront plus confiance en sa gouvernance, et ils demandent la tenue de nouvelles élections. Alors, est-ce que cette deuxième revendication sera victorieuse ? On peut pas le dire, mais avouez quand même que la massive et spectaculaire mobilisation collective du peuple roumain a bien porté ses fruits et inscrit dans le marbre le refus de ce peuple contre la corruption et les petits ou gros arrangements entre amis. On devrait peut-être en prendre de la graine, je dis ça, je dis rien. Autre exemple plus local, je voudrais reparler des vœux d'un maire d'une commune rurale de par chez nous que j'avais évoqué dans une brève il y a un mois.
Ouais, t'en as parlé, oui.
Quelle commune ? Et non, je vous dirai pas.
Pourquoi ?
Parce que comme ça, faut que vous écoutiez l'émission d'avant.
Ah, pas cool.
Donne-nous une indice, c'est bien quelle émission.
C'est pas la dernière, c'est celle d'avant.
Ouh. Celle de rentrée, je crois.
Ah, ah, ah.
Celle du 3 janvier, alors. Et là, je me trompe pas.
Je suis sûre que
t'as déjà dit. Non, je me trompe pas, parce que je l'ai regardé tout à l'heure.
N'écoutez pas.
Donc, ce maire élu sans étiquette, dans ses vœux distribués à toute la commune, se félicitait de l'élection de Donald Trump, si Freddy, dont il attendait plus de glamour, enfin, pardon, plus de sérénité, ça c'était son mot, dans ce monde frappé par la l'islamophobie. Frappé par l'insécurité, ça c'était son mot, citant ainsi la guerre en Irak et en Syrie, les attentats et les migrations importantes. Il se trouve que des habitants de la commune ont écrit, signé et distribué à leur tour une lettre de vœux en réponse à celle du maire. Eh bien, certes, ce genre de démarche comporte quelques désagréments, puisqu'il ne faut pas attendre longtemps pour que les empereurs du coin, séduits de longue date par les idées et les pratiques bleu marine, réagissent avec le courage qui est le leur, par exemple en déposant sur un pare-brise de voiture la lettre de vœux annotée au dos d'un charmant « Danger pour vous ». Non signé, bien sûr.
Ah, sympa.
Oui, soit. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, suite à cette démarche, c'est la discussion engendrée sur des thèmes un peu plus élargis que la quantité de gravier nécessaire au remblai de l'accès au cimetière, et surtout l'engouement créé chez tant d'autres, bien plus nombreux que ces courageux mais pas téméraires apprentis fachos, tous ces autres qui sortent de l'ombre pour saluer la démarche, qui la remercient, qui expriment se sentir moins seuls à penser les valeurs qu'ils portent en eux, qui viennent frapper aux portes pour se dire rassurés de voir que la grande majorité ne partage pas ce genre de position, et qui se disent aussi rassurés de voir qu'ici aussi il est possible de le dire. Ce qu'il faut saluer dans les effets de ce genre de démarche, c'est la possibilité créée de se reconnaître et de se regrouper, y compris sur un territoire où la discrétion et le silence sont trop souvent les conditions au soi-disant bon vivre ensemble. Alors allons-y, continuons, exprimons-nous, sans agressivité, sans haine, sans rancœur personnelle, mais exprimons-nous, défendons nos valeurs, ne laissons pas l'espace public trop souvent uniquement occupé par la peur, la crainte, la haine, le rejet, la discrétion. Continuons à vivre ensemble en conviviale quotidienneté, mais sans vendre notre silence comme condition sine qua non à la vie de quartier ou de village. On se demande souvent, à notre petite échelle, ce qu'on peut faire. Comme je l'ai lu récemment sur une page Facebook de quelqu'un que je ne connais pas, mais que je remercie de ses mots, on ne peut pas tout seul et instantanément sauver le monde, mais peut-être on l'aide. Alors oui, ce qu'on peut déjà tous faire, c'est dire, ne pas laisser dire, s'exprimer, défendre, diffuser des valeurs, se regrouper, créer ensemble des actions et des réactions, semer des graines, c'est s'assumer, ne pas se cacher, ne pas cacher ce qu'on porte en nous d'espoir et de projet pour ce monde. Franchement, c'est peut-être peu, mais c'est déjà beaucoup, et dans de nombreux territoires, c'est la première pierre d'un refus de l'enfermement dans un entre-soi déconnecté d'un monde qui ne sert qu'aux pires idées. Et ça aussi, ça sert.
Merci Katia. Oh, quel optimisme.
Oui.
Vous n'avez pas aimé ma chronique. Hein.
Teaser. Tout à fait d'accord avec toi, Katia. Il faut toujours un gauchiste de service, que ce soit dans ton boulot, ta famille, dans ton village. C'est vrai que ça permet de faire sortir les gens qui, ça donne confiance aux gens qui pensent comme toi, qui n'oseraient pas le dire. Ça libère la parole quand on sait que t'as quelqu'un qui pensera comme toi, quoi. Mm-hmm. Alors, le gauchiste de service, lui, il est François Fillon, il est cramé, bien sûr, toujours. Mais ça sert, effectivement, pour libérer la parole, ça. Ouais. Donc, s'il y a des gauchistes qui nous écoutent, n'hésitez pas à ouvrir votre
Faites
gueule.
Votre
dans
coming
votre,
out.
Dans votre milieu, voilà. Ouais,
et n'hésitez pas à vous dire aussi quand vous aimez nos chroniques, puisque sinon on ne sait pas que vous aimez nos chroniques et on se sent très seul.
D'accord.
C'était un appel.
Tu pourrais redire les chiffres là. Je crois que toi aussi t'es fâché avec les chiffres, ou alors c'est, non, ou alors je vais encore me couler. T'as dit 2 millions de manifestants
millions.
Pour une population de 20 millions, c'est ça?
Non.
J'ai dit 1,5 million de manifestants pour une population de 20 millions.
Ouais.
Après j'ai fait un rapport que nous on était genre 65 ouais. millions. Eh ben,
ça fait combien?
Eh ben, j'ai dit, ça faisait comme si on était 1,6 à manifester.
Bah non.
Quoi, bah non?
Si ça fait 1,5 million sur 20 millions en Roumanie.
Non, 1,5 million.
Oh, j'adore regarder.
Ok, Guillaume.
Guillaume ramé à mort.
1,5, c'est différent de 1,5.
D'accord.
20? Ok, allez.
Non, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Eh ben, je passe pour un con, mais voilà.
J'ai pris le risque.
Voilà.
Non, mais se met le micro dans l'œil. Faut dire ce qui est.
Je me cache derrière le micro. Voilà, 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 une transition, voilà, musique si vous voulez, qu'est-ce qu'on passe comme musique? Bah tiens, bah, on va passer, là, là, tout à l'heure c'était vachement bien, la manif, à la fin ça s'est terminé en chanson, alors là, et bah je sais plus, c'était en novembre, j'avais fait une chronique sur les musiques en manif, où j'étais pas d'accord qu'on passe de la musique à fond dans les sonos, ça sert à rien, mais par contre, qu'une manifestation reprenne en chœur des chants, ça, ça a de la gueule quand ça sort de la poitrine, même si on chante
faux,
et ben ça de la gueule. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a chanté l'Auvergnat de Brassens, on a chanté
Les petits papiers.
Et Lily,
et
Lily
et
de Pierre
Perret,
qu'on va écouter maintenant. Voilà.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noires pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Moi, président de la République, j'aime très très
bien. Bah, dis-en, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviks.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et 4 et 3 qui font 6. Non, je comprends pas. Là, j'essaie de. Je fais des règles de 3 là pour compter le nombre de manifestants.
Mais bon. Non, mais c'est pas un problème de règles de 3. C'est un problème d'audition. Bon. Un demi.
voilà, c'était Lily de Pierre Perret. Et maintenant, ce sera Miss Roquette qui. Un petit peu aussi, toi aussi, t'es un peu dans la théorie du complot, je crois, si j'ai bien compris.
Oui, enfin, on va voir si vous. Si vous pensez comme moi. J'ai regardé l'autre jour une petite vidéo qui parlait de sabotage social. Donc c'était un YouTuber qui s'appelle Horizon Gull et dont je vous recommande chaudement les vidéos, qui faisait une intervention, je sais plus à quelle occasion. Et donc il parlait d'un document qui vient d'être déclassifié, un document de l'OSS qui est l'ancêtre de la CIA, un document de 1944 et qui en fait était un manuel de formation au sabotage pour notamment en France, en fait, ils ont envoyé des agents de l'OSS pour former les gens au sabotage pour venir appuyer la résistance. Et donc le but, c'était de saper l'organisation et la productivité d'un pays occupé. Donc bon, il y a des choses assez classiques dedans, comme apprendre à faire dérailler un train, par exemple. Des sabotages classiques, les premiers trucs auxquels on pense.
Quoi,
non, mais les premiers trucs auxquels on pense quand on parle de sabotage. Mais il y a aussi une partie qui est beaucoup moins classique, et c'est sur celle-là que je vais m'attarder aujourd'hui, et qui est vraiment sur le sabotage social. C'est un sabotage sans outils ou moyens, qui n'entraîne pas de blessures pour la personne qui le fait, et globalement pas de représailles, des risques quasiment nuls pour les saboteurs, puisqu'ils vont passer complètement inaperçu. En fait, c'est basé sur le fait de prendre des décisions erronées, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à suivre cette voie. En gros, c'est agir de façon stupide, volontairement. Donc, par exemple, ces agents, ils sont allés, et ils ont formé notamment des Français. Par exemple, sur les conseils, si on est manager, donc c'est attendre le dernier moment, ne pas faire de commande tant que le stock n'est pas épuisé. Comme ça, le moindre retard que va prendre l'acheminement des produits du stock va entraîner l'arrêt de la chaîne de production. Ça va être aussi de confier les tâches importantes aux travailleurs les moins efficaces et d'avoir des outils de production les plus pourraves possibles. Ça va être donner des informations fausses ou incomplètes lors des formations. Comme ça, on a plus d'employés qui sont totalement incompétents à mettre sur des tâches importantes. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne pas. Ça va être aussi travailler à créer des tensions dans l'équipe. Donc, en fait, il faut être gentil avec les travailleurs incompétents et leur accorder des promotions, des augmentations de salaire, etc.
Ça nous fait penser à des trucs, des fois. Non ?
Tu vois, toi aussi, tu y viens à la théorie du complot. ça va être aussi de se plaindre injustement des travailleurs qui sont efficaces. Comme ça, on peut se dire qu'on va créer des querelles au sein de l'équipe et peut-être même aboutir à des grèves. Comme ça, on est sûr que la production s'arrête. Alors bon, il y a plein d'autres petits exemples. Par exemple, maintenir les réunions quand la priorité est au travail. Faire de plus en plus de réunions, toujours plus et toujours plus et toujours plus, pour ne rien dire. Multiplier les procédures, les autorisations nécessaires concernant les chèques de paye. Faire tout valider par au moins 3 personnes, multiplier la paperasse et tout ce qui est administratif. Là, je vous cite des choses qui sont écrites dans ce manuel de 1944. Hein. Donc, bien sûr, ça fait
visionnaire.
Perdre... Ah, oui, ça fait perdre un temps monstrueux de tout faire valider par 3 personnes différentes. Mais en plus, ça va être intéressant parce que ça va pouvoir faire bouclier. Si jamais on vous dit « Eh oh, là, tu fais exprès de retarder la production, tu serais pas en train de saboter. Ah ben non, mais moi je voulais aller plus vite, mais bon, ça a été validé par machin et bidule. » Donc ça vous permet aussi d'éviter le blâme, de jouer le stupide comme ça. Et de faire tout valider par 3 personnes. Donc, bon, effectivement, comme tu dis, Katia, ça nous rappelle, je pense, à peu près à tous des choses qu'on a pu vivre au travail ou entendre.
Des administrations, des services publics.
Le management dans le service public.
Hein. Oui, oui, tout à fait.
En fait, ils sont toujours en résistance, qu'on leur a pas dit.
Ils sont toujours en résistance, mais c'est exactement ce...
Ils sabotent le service public, en fait.
Ce que ça m'a fait penser à ce soldat chinois, Hiro Onoda, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui a continué la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit quoi?
Chinois. Moi, je connais que Hiro chinois. Mais je ne sais pas Hiro Onoda.
Donc c'est un japonais, excusez-moi, qui a continué la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1974 parce qu'il n'était pas du tout au courant, il était sur les îles Philippines et il n'était pas au courant que la Deuxième Guerre était finie. Et même quand on le lui disait, il ne voulait pas le croire parce que ce n'était pas son chef qui le lui disait, il pensait à un complot. Bref, je reviens à ma chronique. Autre petit conseil de sabotage social qu'on peut trouver dans ce manuel, ça va être d'appliquer absolument tous les règlements à la lettre. tous, même les plus stupides, toute la jusqu'à la dernière petite norme que personne ne connaît, et même d'en inventer des nouvelles normes. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez absolument pas avancer, et en plus, on ne pourra pas vous reprocher d'essayer de saboter puisque vous essayez de faire votre travail au mieux. Bon, là, je vous parlais d'un manager, mais ça peut marcher aussi pour un employé de bureau ou un employé d'administration. Alors là, ce qui est conseillé, c'est de faire quantité d'erreurs dans les documents, de confondre les noms, d'utiliser les mauvaises adresses, de perdre les documents essentiels. Là aussi, ça me rappelle des choses. D'envoyer les courriers au dernier moment, voire en retard. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai déjà reçu une convocation à Pôle emploi 3 jours après l'entretien. Bon, c'est bien sûr, après, il y a des grands classiques comme travailler lentement, mais bon, ça, on connaît. Faire semblant de ne pas comprendre les instructions et les faire répéter plusieurs fois. Ça, c'est très bien parce que vous montrez que vraiment vous avez un attachement à votre travail, vous voulez le faire au mieux, mais vous faites perdre un temps monstrueux à votre chef et puis vous perdez du temps aussi. Vous pouvez aussi prétendre que vous êtes anxieux de bien faire le travail et harceler le chef de questions inutiles. Ensuite, ce qu'on peut faire, aussi un grand classique, remplir les formulaires de façon illisible. Donc ça va retarder l'administration. On peut aussi faire exprès de faire des erreurs ou oublier de cocher des cases. Vous savez bien qu'un formulaire où il y a une case qui n'est pas cochée, ben déjà il faut que trois semaines pour que l'administration s'en rende compte et qu'il vous le renvoie.
Mais non, donc c'est du PQ après.
Oui, c'est ça. Bref, jouez la stupidité, soyez aussi irritable et querelleur que possible sans pour autant vous mettre dans l'ennui. C'était la conclusion de ce truc de formation.
Et de côté employeur, c'est de mal paramétrer le site pour que peu importe ce qu'on met, on se trouve toujours à avoir 1200 CV qui correspondent, mais en feuilletant, on en trouve 7. Il y a aussi, il y avait une autre, ah oui, c'était simplement de omettre certains diplômes qui ne sont pas les diplômes professionnels, mais qui sont quand même obligés pour certains postes. Donc, on peut pas faire de recherche là-dessus non plus. Et quand on recherche quelqu'un avec un diplôme non professionnel, entre guillemets, on se retombe sur enfin, des fois les cuistots, des fois les infirmières, des fois trafiquants de drogue, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais vraiment, c'est tellement divers que
non, voilà. C'est bien ça. Et puis en plus, ils ont, enfin, l'OSS à l'époque a bien ciblé le pays, la France, hein, parce que quand tu penses qu'en Yougoslavie, ils avaient monté des armées de libération nationale, les mecs se jetaient sur les tanks avec des cocktails Molotov. En France, non, on prend les riens. Voilà, on en foutait pas une, on résistait.
Alors, ce dont parlait Horizon Gull, donc ce YouTuber qui faisait cette intervention, c'est aussi de, par ses actions qui sont sans risque, on peut toucher tout le monde, parce que ben, tous ceux qui peuvent à un moment ou à un autre vouloir résister peuvent vouloir si ils n'ont pas peur des représailles. Et en fait, c'est le système, c'est un biais cognitif qui s'appelle le pied dans la porte. À partir du moment où vous avez déjà dit oui à quelque chose, vous êtes prêt plus facilement à dire oui à des choses que vous auriez pas accepté dès le départ. C'est pour ça que souvent, quand vous avez un démarcheur qui vient chez vous, il commence par vous poser une question insignifiante à laquelle vous allez répondre oui. Une fois que vous avez répondu oui à ça.
Ce sont les études sur la réciprocité, en fait.
Vous avez beaucoup plus de mal.
C'est que t'as envie d'être gentil, mais parce que t'as envie de trouver la bonne entente, donc eux, ils savent.
Et à partir du moment où tu as commencé à dire oui à cette requête insignifiante, genre, vous avez l'heure. On est plus enclin à continuer à dire oui aux questions suivantes. Donc voilà. Donc c'est aussi un moyen d'inciter les gens au sabotage, des gens qui n'y seraient absolument pas venus. Et je me dis qu'il y a peut-être quelques idées qu'on peut récupérer chacun de notre côté, si jamais on se retrouve avec une femme présidente dans quelques mois, par exemple, ou aux États-Unis, si vous voulez faire traîner Trump, si on a des amis américains qui nous écoutent.
Ça s'appelle la grève d'Uzel aussi. Hein. C'est même antérieur à la Seconde Guerre mondiale. Ça, il y a un livre qui s'appelle Le sabotage d'Émile Pouget aussi, qui fait des conseils comme ça de les ouvriers au début du XXe siècle. Quand ils pouvaient pas faire grève, ils faisaient grève d'usel et ils limaient leurs pelles. C'est-à-dire, ils avaient des pelles plus petites, donc il y avait une production.
Une moindre capacité.
Voilà, moins importante. Voilà. Il y a plein, c'est vrai qu'il y a plein de ressources pour faire chier. C'est ça qui est bien.
Voilà. Si vous avez des idées de comment faire capoter un projet, n'hésitez pas, nous sommes toujours preneurs au hockey.
Oui, on aime ça. T'avais une musique?
Oui, c'est une musique des Beastie Boys qui s'appelle cool. Sabotage.
Oh, yeah.
Sabotage.
des roquets rouges. Ils crient, ils mordent et ils s'enfuient.
Du roque et du rouge.
Rebonjour.
Bonjour. Oui, on est là, Amanda.
Tout le monde s'est nettoyé les dents. J'aime les bretzels, tout le monde m'a dit que c'était dégueulasse, mais finalement.
Tout le monde les mange parce que c'est salé, c'est addictif.
Mais c'est surtout parce qu'il est tard et qu'on a faim.
Ouais, ouais, c'est tard. C'est presque minuit.
Amanda, je crois que c'est ton tour pour la chronique. De quoi vas-tu nous parler?
Bah, en fait, je voulais vous parler du fait que, bizarrement, ça fait maintenant 4 mois que je me sens angoissée en permanence. Mon angoisse est oh my god. Mon angoisse est exacerbée. Mon angoisse est exacerbée.
Oui, mais si tu fais des mots de 3 syllabes aussi, Amanda, franchement.
Je dis à ta place, si tu veux. Mon angoisse est exacerbée.
Ok. Ouais. Tu vois, tu l'as dit.
Amplifié.
Sinon, je vais amplifier. Mon angoisse est amplifiée chaque jour quand j'apprends des actualités internationales.
Oh oui, t'as l'air angoissé, là, dis donc.
Boule au ventre, mal à dormir. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le moindre lecture des news de ces dernières 4 mois m'a donné envie de vomir. Je suis allée voir un médecin qui me confirmait que non, ce n'est pas une grossesse non désirée. Et paraîtrait juste que je suis devenue simplement allergique aux actus. Mon corps les rejette. Je suis incapable de les supporter, même à petite dose. Vous rigolez peut-être, mais c'est vrai. Sinon, comment expliquer mes symptômes? La peau en friche, les muscles tendus, les transpirations nocturnes. Et surtout, une envie très forte du chocolat. Mon traitement médical consiste largement de repos aux quarantaines. Il faudrait rester éloigné de la radio, d'Internet et des journaux. Une fois dans mon lit, recroquevillé sur moi-même en position fétale, j'arrive à respirer calmement. Je me mets à mes anciens loisirs, qui ont été perdus depuis le temps de cette maladie, comme la lecture des livres de fiction. Les livres! J'avais carrément oublié ces machins anciens. Tiens, c'est du old school, ça dégaine. Bon, j'ouvre Le philosophe qui n'était pas sage, par Laurent Gounel. Allez, je vais me paumer au fond de forêt amazonienne. Ça va me changer les idées. C'est l'histoire de Sandro, un jeune philosophe occidental dont la vie part en vrille suite à la disparition de sa femme, décédée par la faute d'une tribu d'Amérique du Sud. Sandro se rend sur place, au cœur d'une forêt tropicale, avec un but en tête. Se venger de ce peuple qui a détruit sa vie. Bon, allez, c'est un peu morbide de cette histoire. Je vois pas comment on va en remplir 300 pages avec un simple massacre. Mais bon, mon médecin m'a interdit les actus, donc on va découvrir. Sandro quitte New York, né. Ah, il arrive au Brésil, né. Il embauche des guides qui sont des pervers dépravés. Le voyage est long, insupportable. Il fait très chaud, il marche pendant des jours pour rejoindre le village indien. Ah ouais, je commence à m'oublier, à me perdre dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. J'apprends que Sandro ne compte pas tuer les Indiens qui a battu sa femme. Oh. Il veut les détruire moralement, le rendre malheureux. La tribu est réputée d'être la tribu la plus heureuse du monde, chose qui est pour lui insupportable. Sandro s'installe près du village indien et il délègue les tâches destructrices aux guides malsains. D'abord, ces guides devraient établir une relation de la fausse bienveillance avec les villageois. Ensuite, ils devraient conseiller aux villageois les petits changements de mode de vie qui ont été réfléchis en amont par Sandro. Les guides parlent incessamment des dangers du forêt. Ils répartissent la tribu dans les huttes familiales et ensuite ils séparent les familles toute la journée pour les tâches quotidiennes. Ils imposent la compétition comme la seule forme de jeu. Ils introduisent des distractions permanentes aux villageois. Ils en vendent des besoins de matériaux injustifiés. Ils redéfinissent les standards de beauté. Bon, fin, ok, je retourne une page après une autre et une chose est claire. Même si cette histoire se déroule à l'autre bout du monde, c'est une histoire sur nous, sur notre société. Cette société qui a façonné malgré nous, nos esprits et nos habitudes de vie. Pour Sandro, rendre la tribu malheureuse était si simple que de leur imposer les pures habitudes de la société occidentale consumériste. Si nous pouvons simplement prendre la démarche de Sandro à l'inverse, est-ce qu'on pourrait sauver la société? Au moins la rendre plus juste, plus saine, plus harmonieuse? Je ne sais pas. Moi, je suis malade. Et je retourne au lit, avec ma tablette au chocolat.
Merci Amanda.
Mais c'est très bien ce que tu fais, ça, de prendre un livre pour se soigner. Ça s'appelle la bibliothérapie. Je vous ferai une chronique là-dessus.
Mais
il
y a tellement de poussière dessus que ça a failli me donner une autre allergie.
Rappelle-nous comment il s'appelle, ce bouquin.
Donc, c'est Le philosophe qui n'était pas sage, écrit par Laurent Gounel.
C'est bien Gounel, hein, c'est pas Gunel avec l'accent d'Amanda, c'est Gounel. Hein,
On vous mettra les références du livre sur notre page Facebook.
Mais ça fait très bien, ça fait du bien de lire des livres, ça permet de se sentir moins seul, ça permet de mettre des mots sur des émotions qu'on a du mal à maîtriser. Lisez des romans, surtout en ce moment, ça va vous faire du bien. Je vous ferai une chronique là-dessus.
Celle-là, ça m'a pas trop fait du bien. Ah je bon vais pas vous le cacher, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est une copine qui me l'a offerte et je pensais que c'était son côté naturel, bio, tu sais, tout ça. Mais non, en fait, c'est carrément le message un peu caché.
Bah oui, en même temps, tu veux t'extraire de l'actualité, mais tu prends un bouquin qui parle des méfaits de notre société.
Mais je savais pas.
Amanda.
Je savais pas.
Voilà, je crois qu'on n'aura pas nos invités. On voulait...
Ça veut dire que le rassemblement doit durer, durer.
Peut-être un sitting et on nous fait signe qu'il reste 10 minutes. Et là, ça, moi aussi, je commence à angoisser. T'as pas du chocolat?
J'ai tout mangé.
Merde. Non, il reste des cookies, il y a des morceaux de chocolat, là.
Non, on va en parler quand même de ce rassemblement.
Ouais, ah ben oui, parce que, Katia, il me semble que tu es aussi, t'étais dans le staff qui a organisé ça, non? Non, pas vraiment,
je les connais un peu.
Ah oui, voilà, d'accord. Ouais. Oui, alors ça venait d'où? Tiens, voilà. Pourquoi, alors, rappelle-nous le thème de cette manif.
Le thème, c'était les délinquants solidaires, le délit de solidarité. Donc, le délit de solidarité, c'est en gros ce qui permet, tout ce qui permet dans la loi, parce que des outils, il y en a plein.
Ils appellent ça comme ça, l'État?
Non, parce que, en fait, officiellement, juridiquement, c'est censé pas exister, le délit de solidarité.
Non, c'est quoi? Aide à clandestins, aide à...
C'est l'interdiction de l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des personnes en situation irrégulière. Ouais. Mais il y a aussi tout un tas d'autres textes aussi qui sont utilisés pour intimider, faire pression, voire poursuivre et condamner des personnes, des militants, des bénévoles, des gens de la société civile qui viennent en assistance et en aide à des personnes étrangères en situation irrégulière. Mais il n'y a pas que l'interdiction de l'aide à l'entrée, au séjour, à la circulation, il y a tout un tas de... par exemple, il est beaucoup utilisé l'état d'urgence, il est beaucoup utilisé les outrages à agents, il est beaucoup utilisé les codes dans l'aérospatial. Quand des personnes manifestent à l'intérieur d'un avion sur la violence qui est faite pour mettre en œuvre une expulsion d'une personne sans papier. Bon voilà, il y a tout un tas de textes qui sont utilisés pour briser la solidarité.
Par exemple, pour nos auditeurs, si vous voulez, un exemple qui a été un peu médiatisé, c'est Cédric Héroux. Héroux, ouais, il me semble bien.
Un agriculteur.
Qui est dans le sud-est de la France. Et
du côté de Menton, dans la vallée de la Roya.
Ouais. Qui aidait des migrants à passer la frontière parce que sinon ils allaient se perdre dans la montagne et il fait quand même super froid en ce moment en altitude et donc pour pas les laisser mourir sur place, il les aidait à descendre la vallée de la Roya et il s'était pris une première peine avec sursis il y a un mois je crois et il repasse en jugement demain, enfin à l'heure où on enregistre, donc le 10. Donc on va voir de quoi il va écoper puisque il a été pris en récidive entre guillemets quoi.
Il avait dit qu'il recommencerait de toute façon.
Oui,
donc il le surveillait.
Il y a eu une méga descente de flics GIGN, il me semble, chez lui.
On peut voir la vidéo de la perquisition là, jusqu'à sa deuxième arrestation et c'est complètement dingue en fait. C'est des moyens qui sont dignes du grand banditisme ou de la lutte antiterroriste. Enfin, il y a quand même des dizaines d'agents des forces de l'ordre armés, casqués, armés qui encerclent en fait son habitation avant de rentrer dedans et de le perquisitionner. Enfin, vraiment comme s'il y avait quelqu'un de très dangereux à l'intérieur.
C'est histoire d'intimider ceux qui voudraient le faire. Quoi. C'est aussi des gens à Calais qui prenaient des clandestins dans leur voiture ou leur camion, leur van pour les faire passer en Angleterre, qui ont été condamnés.
Des personnes qui ont hébergé au motif du travail dissimulé, puisque en fait un des principes c'est que on devrait ne pas poursuivre la solidarité dès lors que l'aide qui est apportée, elle sert à la dignité humaine et elle touche uniquement certains thèmes comme la restauration, la santé, l'hébergement. Mais il faut qu'il y ait une condition de dignité et il faut qu'il y ait une condition de non-lucrativité, que ce soit financier ou en nature. Il y a des militants qui ont été poursuivis parce que on les a accusés d'avoir imposé de faire la vaisselle et on a considéré que c'était du travail dissimulé alors que c'est du vivre ensemble. C'est un moyen d'intimider et d'empêcher les gens... d'accueillir.
Et je lisais sur le track de la manif que c'est à peu près 1000 personnes qui sont traduites en justice en France aujourd'hui.
C'est les chiffres de 2009, c'est un peu vieux.
Oui,
c'est un peu vieux, mais effectivement, c'est ça, les chiffres de 2009, c'est à peu près 1000 personnes
qui ont été poursuivis ou condamnés en 2009, mais il n'y avait pas de chiffres vraiment plus récents. Mais si on prend juste les derniers mois, quand même, il y a au moins une grosse dizaine de faits qui ont été médiatisés, donc ça ne dit pas tous les autres, bien sûr, mais quand même, les associations au niveau national qui se sont mobilisées, elles se sont mobilisées parce qu'il y a quand même la sensation que la répression augmente quand même, et que les poursuites et les intimidations s'accélèrent.
Mais non. Pour essayer de soigner l'angoisse d'Amanda, moi je trouve que c'est quand même hyper positif. Je pense que dans l'histoire, on retiendra qui c'est qu'on retiendra, quoi, les connards qui ferment les frontières ou les Français qui ont aidé. On notera, on se rappellera, je pense, dans 20-30 ans qu'il y avait, il y a eu un mouvement populaire de solidarité envers les migrants. C'est, moi je trouve ça super. La manif tout à l'heure à Rodez, il y avait donc il y a une dame qui a compté 180 personnes qui étaient là dans le froid à Rodez pour exprimer leur solidarité envers les migrants et ceux qui les aident dans le froid, qui se sont mis à chanter, qui se sont rassemblés. Et voilà, il y a un mouvement populaire en France pour soutenir les migrants. Et vu l'actualité qu'on voit en ce moment, on médiatise un peu tous ceux qui sont plus pour fermer les frontières. Et ben non, il y a pas que ça. Et voilà, c'est cool. Moi, ça me fait chaud au cœur. Voilà.
Le plus dangereux, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qui est les vraies actus, qu'est-ce que c'est le vrai news en fait, qu'est-ce que c'est les fausses infos.
Tu penses à quoi là?
Tellement de choses. Ouais. Il ne reste que 4 minutes. je pourrais pas. J'ai d'autres priorités pour la fin de l'émission, mais
bon, d'accord.
Mais oui, comment tu avais déjà évoqué ça il y a 2-3 émissions. Comment trouver les compléments d'informations en dehors des circuits un peu rodés, quoi, Guillaume?
Oui.
Toi, tu avais des pistes.
Oui, bah il y a des, enfin, oui, d'accord. Oui, c'est vrai, que c'est compliqué pour en.
Eh bien, auditeur, il te faudra écouter une prochaine émission dans laquelle Amanda et Guillaume décortiqueront tout ça.
Vous aviez d'autres infos à donner? Il y a
un festival des mots aux mots dont Amanda voulait nous parler.
Non, il y a un super festival. En fait, des images aux mots.
Des images aux mots, tu vois.
Et ça fait maintenant 4 ans que l'association Alerte relaie ce festival en Aveyron. Parce que c'est un festival de films régional. Et nous, c'est-à-dire les bénévoles d'Alerte, organisent ça en Aveyron. Et cette année, on est super content parce qu'il y a quand même 3 partenaires. Enfin, il y en a 5, mais 3 cinémas différents en Aveyron. Le cinéma à Decazeville, le cinéma à Rieux-Pays-Roux et le cinéma de Rodez qui vont faire les projections. Voilà, donc les dates vite fait, c'est ce jeudi. Le 16 février, pas le faux 16 février d'aujourd'hui, mais le vrai 16 février de jeudi, à 20h30 au cinéma La Strada à Decazeville. Mm-hmm. En fait, nous vous proposons le film Danish Girl de Tom Hooper. Danish Girl, quoi. Après, le dimanche 19 février à 17h au cinéma de Rieux-Pays-Roux avec l'association Rencontre à la Campagne, nous vous convions à découvrir le film Viva. Par Paddy Brettnach. Je ne suis pas sûre d'avoir maîtrisé. C'est irlandais, c'est pas l'anglais. Et puis, le vendredi 24 février, donc dans 10 jours, il y a, à Rodez, il y a donc le film La sociologue et l'ourson, qui a l'air génial, franchement trop marrant, à 20h30. Et juste avant, si vous arrivez un peu plus tôt, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a l'inauguration de l'expo, le cinéma contre l'homophobie, qui est exposé à Cap Cinéma. Donc, le 24 février, le 19 février, le 16 février, pour vous faire un peu de gymnastique cérébrale.
Mentale.
On vous mettra les dates sur la page Facebook des Roquets. Voilà, ça aussi, ça, voilà, ça c'est optimiste. Voilà,
oui, mais c'est pas nouveau, ça fait 4 ans,
mais
ça fait 10 ans que ça existe.
Mais ça reste hiver quand même.
Alerte, c'est une asso qui marche, qui s'est montée à partir de rien et qui fonctionne bien, là, qui a du bon boulot sur le territoire de l'Aveyron.
On aimerait bien avoir un peu plus d'Aveyron. Donc, si jamais ça vous...
Mais
si
on n'est jamais satisfait, on aime bien toujours être plus nombreux, mais l'essentiel, c'est d'exister. Résister, c'est résister, voilà.
Et bien, ça va, je pense que ça peut être les mots de la fin de l'émission.
Résister, voici le titre de cette émission.
Ouais, super.
Et résister, c'est exister aussi.
Oui.
Il nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous dire à dans 15 jours pour une nouvelle émission des Roquets.
Ciao et plaisir.
Ciao. À bientôt.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
Des
This is the Revolution Sure Shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Les Rock et Rouge sur CFM.